Vous êtes sur RTL.
RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le temps file en si bonne compagnie et même si tous les jours se ressemblent en ce moment, ils ont fait la queue les uns derrière les autres, comme l'écrivait Prévert, et nous voici donc déjà vendredi et ainsi de suite les saisons. Profitez de ce week-end pour écouter les émissions que vous auriez ratées cette semaine. Profitez-en, et notamment celle d'hier dans laquelle nous avons débattu autour du devoir conjugal dont le manquement invoqué dans un procès pour faute a été à l'origine de la condamnation d'une femme qui vient de déposer un recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Oui madame, oui monsieur, bienvenue en 2021. Et surtout, bienvenue sur l'application RTL pour les replays dont on est fait pour s'entendre. Aujourd'hui, je vous le disais, jusqu'à 15h30, en direct sur cette antenne, on va donc parler de la délectation du juron.
Descendant, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme, mégalomane, flibustien, phylloxera, encombrant cyanure, anthropopithèque, vampire, poisson, soir.
Car si nous n'avons pas tous la culture linguistique ni l'imagination du capitaine Haddock que nous venons d'entendre, je pense pouvoir affirmer en revanche que nous connaissons tous la jouissance du juron. Ces expressions souvent grossières et outrancières qui sortent toutes seules portées par la douleur, la colère, la joie aussi parfois, la surprise ou l'indignation. Alors pourquoi aimons-nous tous tant jurer? À qui nos jurons s'adressent-ils et que veulent-ils dire? Quels sont ceux que vous préférez? Éloignez les enfants, car on va chatouiller les oreilles innocentes jusqu'à 15h30. En ligne avec nous aujourd'hui, Hélène Fresnel. Bonjour Hélène.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous Hélène. Vous êtes journaliste à Psychologie Magazine et vous vous êtes intéressée donc dans un dossier à cette fameuse jouissance du juron. On peut dire en ce moment qu'on jure tous un peu, quoi. Ça nous fait du bien.
Oui, absolument.
À nos côtés aujourd'hui, Aurore Vincenti. Bonjour Aurore Vincenti.
Bonjour Flavie.
Merci d'être là Aurore. Vous êtes linguiste et vous êtes autrice aux éditions Le Robert. Et puis je me suis délectée aussi de votre série Les Gros Mots, d'une série que vous avez commise, je peux le dire, en tant que Gougnafière, non Gougna, je ne sais plus au générique, vous vous êtes vous-même qualifiée de...
Oui, Gougnafière, mais plutôt linguiste en réalité.
Voilà,
quand même, tout de même.
C'est une série que vous avez donc commise pour TV5 Monde qui s'intitule Les Gros Mots. Alors c'est quoi la différence entre une insulte, un juron, une injure, un gros mot?
Alors vous avez parlé de juron, alors c'est une exclamation vive sous l'effet de la colère, la surprise, ça vous l'avez dit. Mais tous les jurons ne sont pas grossiers. Le gros mot, lui, on va dire que c'est une grande catégorie de mots qui ne sont pas petits, qui connotent ou dénotent l'idée d'un manque de raffinement.
Ouais.
Voilà, le gros, le grossier par rapport au fin, au raffiné. Et ensuite, l'insulte ou l'injure, et plus particulièrement l'injure, là, elle va être directement adressée à quelqu'un. Alors que dans le juron, il y a ce côté réflexe de on se cogne le pied dans la marche d'escalier.
Ouais.
Et on crache quelque chose, on crache un mot. Il n'y a pas forcément de direction vers quelqu'un.
Alors, on y reviendra parce que bien souvent dans le juron, on insulte.
Oui.
Dieu, les mères, souvent, on le disait il y a un instant, pas forcément les pères, mais on reviendra sur la nature des jurons et vous pourrez effectivement nous apporter votre éclairage de linguiste. À vos côtés, Jean-François Marmion. Bonjour Jean-François.
Vous ici.
Alors là, j'en reviens pas. Parce qu'on vous entend régulièrement dans cette émission, mais ça faisait très longtemps que vous n'aviez pas mis les pieds dans ce studio.
Mais est-ce bien moi derrière le masque?
Mais carabistouille, qu'est-ce que vous faites là? Soyez le bienvenu.
J'avais perdu l'adresse du studio.
Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, ouais. Jean-François Marmion. On se marre tous depuis le début parce qu'on sait qu'on va dire des gros mots sur l'antenne d'RTL. Alors, ils ne sont pas tous grossiers, les jurons, mais néanmoins, vous le verrez, Aurore, on va avoir beaucoup d'auditeurs qui vont nous sortir énormément de gros mots. Pourquoi est-ce qu'on a du plaisir à sortir des gros mots?
Parce que ça véhicule une émotion, tout simplement. Le plus souvent, c'est une espèce de colère qui peut monter. Et puis, ça passe plus vite comme ça. Ça évite de taper du poing sur la table ou de taper sur quelqu'un tout court. C'est une espèce de verbalisation de quelque chose qui pourrait être beaucoup plus violent.
Oui, mais ça nous rend heureux. Ça nous, quelque part, le fait de pouvoir le faire. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté transgressif dans l'histoire?
Si, bien sûr. Mais attention, je pense qu'il faut distinguer deux catégories de grossièreté. Il y a les grossièretés qui sont dites par des gens qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire.
Mmh.
On a l'impression qu'ils disent ça à chaque phrase, quoi.
Mmh.
Et puis d'autres qui ont plusieurs registres de langage et qui peuvent passer d'un registre à un autre, établir une espèce de connivence avec l'interlocuteur. Par exemple, si on rencontre un patron, on est un peu sur la réserve, un peu diplomate.
Mmh.
Puis quand on se connaît mieux, hop, on se lâche un petit peu, on se laisse aller à de la spontanéité et à quelques grossièretés pour dire entre nous, c'est permis.
Voilà, alors ce que vous appelez des grossièretés, c'est bien ce qu'on appelle des jurons, on est bien d'accord, on parle de la même chose. Mais c'est vrai, est-ce qu'on assume nos jurons de la même façon, Aurore Vincenti?
Écoutez, moi j'aime bien qu'on parle de transgression, parce qu'en réalité, si le juron fonctionne, si on a plaisir à le dire et s'il a de la puissance au moment où on le sort, ouais, c'est qu'en effet, on a l'impression intérieurement de franchir une limite. Alors, est-ce que c'est cette limite sociale avec le patron, par exemple, ou est-ce que c'est un enfant face à son parent qui va oser dire quelque chose qu'il ne devrait pas dire? Il y a en effet ce franchissement de l'interdit, du sacré, parfois. C'est pour ça que ça touche souvent à Dieu, des domaines sacrés. Dieu, par exemple, et notamment, il y en a beaucoup au Québec qui gardent cette trace de Dieu, tabernacle, Christ, ciboire, mais aussi à d'autres domaines. Nous, on emploiera beaucoup de jurons qui auront trait à la sexualité et à la scatologie,
donc à le pipi caca prout,
voilà et exactement. Ça fait rire tout le monde, ça plaît
tiens,
à tout le monde.
Regardez, voilà, la preuve. Hélène Fresnel, vous vous y intéressez au côté scato aussi dans Psychologie Magazine?
Oui, oui. En fait, je pensais effectivement aux enfants qui trouvent beaucoup de plaisir à jurer. Mais ce qui m'intéressait aussi, en fait, c'était vraiment le fait de s'adresser à soi-même, quand on se parle à soi-même et qu'on prononce ces mots. Donc voilà, et j'ai repensé effectivement à l'enfance. Du coup, je me suis replongée dans Freud, et aussi j'ai discuté avec une linguiste qui s'appelle Evelyne Largage, qui m'a bien expliqué un petit peu le retour un peu au stade anal et la régression que pouvaient représenter les jurons.
Alors, voilà. On va accueillir, si vous le voulez bien, Céline sur cette antenne. Céline, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, Céline. Bah, dites donc, qu'est-ce qu'on apprend?
Ah non, c'est pas vrai, c'est pas moi.
Est-ce que ce sont des façons de parler, Céline?
Pas avec les patrons, en tout cas.
Bon, eh ben dites donc, vous, faut pas trop vous charrier, faut pas que vous vous fassiez mal. Non, faut pas que quelqu'un vous saoule. Mais on va se retrouver dans un instant, vous allez nous parler effectivement de l'effet que ça vous procure de jurer et puis de votre environnement. Parce qu'avant, vous ne juriez pas, mais vous jurez beaucoup plus maintenant, vous nous expliquerez pourquoi. À tout de suite sur RTL.
RTL. On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Aujourd'hui, on parle du juron. Pourquoi aimons-nous tant jurer? Pourquoi est-ce que ça nous fait tant de bien? C'est un exutoire, nous écrit Sally. Les jurons, comme dit plus haut, ça défoule et c'est mieux que de frapper les gens. Et surtout, il ne faut pas garder des idées et des énergies négatives en soi. Alors autant que ça sorte comme ça. Parce qu'effectivement, ça sort comme ça, ça n'est pas contrôlé, le juron. Et il se dit que ça nous fait du bien. Psychologie Magazine, ami, partenaire de cette émission, s'est intéressé effectivement pouvoir apaisant du juron. Hélène Fresnel et ses journalistes, c'est notre invitée, en compagnie d'Aurore Vincenti qui est linguiste et de Jean-François Marmion qui est psychologue. Bref, on est tous là pour écouter le témoignage de Céline. Céline, il va falloir vous lâcher un peu là.
Je suis coupable.
Et mais alors dites-moi, est-ce que c'est difficile de jurer sans être porté par les émotions habituelles? Là, je vais vous demander quels sont vos jurons préférés, vous allez me les dire, mais est-ce que c'est plus difficile quand vous n'êtes pas porté par des émotions qui, quelque part, font tomber les barrières?
Ah, tout à fait, oui. Là, j'ai pas envie, je vais les dire, hein, y a pas de souci, mais j'ai pas envie de les dire.
Alors, justement, on y va. Qu'est-ce qui sort tout seul, dites-moi?
Ah, les putains séchés.
Ouais.
Quand il y a quelqu'un qui va m'agacer, je vais me traiter de gros bâtard.
Ouais, d'accord.
Je vais me cogner, je vais faire putain sa race, putain sa mère.
D'accord, enfin il y a souvent du putain hein, là-dedans.
Oui, régulièrement, oui. D'accord. Je pense que c'est le number one.
Dites-moi, vous me dites quand quelqu'un me saoule, vous allez peut-être parfois un petit peu plus loin encore, hein. On parlait du scato, de tous ces trucs-là. Qu'est-ce que...
Ouais.
Allez.
Pouvoir dire enculé aussi, ça me dérange pas.
D'accord. Alors, et c'est marrant parce que là, on vous sent gêné. Alors que j'imagine que quand ça sort tout seul, ça n'est pas le cas.
Ah non, j'ai aucun scrupule.
Quand vous parlez d'une personne qui peut vous ennuyer et que vous allez traiter avec des guillemets, vous ne le faites jamais en face d'elle? C'est quelque chose.
Jamais, non.
Donc en fait, quand vous jurez, même vis-à-vis de quelqu'un, vous parlez à vous-même.
C'est ça, oui. Donc déjà, je m'assure que souvent le téléphone est bien raccroché.
Ouais. Ah ouais. Il n'y a rien de pire.
J'ai eu le coup cette semaine. Hein. Franchement, par contre, c'est moi qu'on a un peu malmené et en fait, j'ai entendu.
D'accord.
Et là, je me suis dit, il faut vraiment faire attention qu'on raccroche bien le téléphone.
C'est vrai.
Donc, ouais, parce que déjà, je m'assure que le téléphone est totalement bien raccroché, éteint, et écran éteint. Et après, ça sort.
D'accord. Et quand ça sort, qu'est-ce que ça vous fait?
Ah, ça me détend, quoi.
Ouais.
Ça décharge. Alors, déjà, je déteste avoir les énergies négatives. Donc, je suis en totale corrélation avec le reste du pays, le reste du monde autour de moi.
Ouais.
Donc je décharge l'énergie négative et après voilà, c'est tout, je fais ce que j'ai à faire et puis voilà.
Alors, est-ce que votre environnement a une influence sur votre facilité, votre aptitude à jurer?
Alors, mon influence, oui, forcément, a une influence. Enfin, mon environnement a une influence, oui, parce que si je voulais m'adresser avec ma direction ou avec mon supérieur qui est dans le coin, je vais pas me permettre de dire trop de gros mots. Mm-hmm. Ou de jurons. Par contre, si c'est un environnement plutôt de collègues ou de collaborateurs, ça me perturbe moins.
Mais il paraît que vous êtes plus juron que vous ne l'étiez à une époque. Pourquoi ?
Est-ce que c'est mieux professionnel ? Du coup, je me suis posé la question après l'entretien de ce matin. Mmh. J'imagine que oui, parce que je n'ai pas souvenir de mes parents qui juraient.
Alors, c'est quoi votre environnement ? On jure dans votre environnement professionnel ?
Ouais, c'est un peu trash. Je travaille dans le bâtiment, donc il n'y a pas de filtre. Hein. Quand on parle de l'expression brute de décrochage, c'est vraiment l'expression type du bâtiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas de filtre, on dit ce qu'on pense. Maintenant, ça évite d'avoir des non-dits et c'est très bien. Quoi.
Donc ça a libéré votre juronite
<C'est ça. rire>
jusqu'alors contenu, c'est ça?
Tout à fait.
Alors, bon, c'est très amusant quand même, Aurore Vincenti, parce que Céline, quand je lui demande ses jurons préférés, je l'imagine rougir au téléphone.
Oui. Hein,
donc c'est cette idée de la transgression. Aurore, qu'est-ce que vous retenez du témoignage de Céline?
Je retiens en effet que le juron dominant, et ça statistiquement on l'a remarqué en France et en langue française, c'est putain. Mmh. Et que ce sont toujours les femmes qui prennent, hein, et dans beaucoup de jurons. Alors, il a une spécificité, ce juron-là. On oublie de quoi il s'agit quand on dit putain. On ne se dit pas, là, je suis en train de parler d'une prostituée. Mmh. On l'oublie la plupart du temps. On dit en linguistique qu'il est désémantisé. On a perdu son sens. Néanmoins, si vous dites, quand votre bagnole ne démarre pas, cette putain de bagnole, en effet, vous l'oubliez. Mais ta putain de sœur veut pas venir. Là, tout à coup, on se souvient de quoi on parle.
C'est
Or,
vrai.
Moi, j'essaie de ne plus l'employer, ce juron, parce qu'il rappuie là où ça fait mal, c'est-à-dire sur les femmes, les prostituées en particulier, mais en fait, toutes les femmes qu'on traite de salopes.
Et on y reviendra dans un instant, puisqu'on a retenu un extrait de votre programme Les Gros Mots sur TV5 Monde, où vous expliquez l'origine de putain, et vous l'écouterez bien, Céline, parce qu'effectivement, c'est intéressant. Jean-François Marmion, quand vous écoutez Céline.
Je me dis que c'est assez classique, hein. C'est vrai que depuis des siècles, c'est toujours un peu les mêmes jurons qui reviennent. Peut-être enculé, c'est peut-être un peu plus récent, mais putain, merde, tout ce qui concerne
c'est
les jurons.
Quand on réfléchit à ce que ça veut dire.
Oui.
Non, c'est des espèces de tics de langage.
C'est ça.
Et qui viennent de plus en plus tôt d'ailleurs. C'est-à-dire que non seulement au collège, mais même en école primaire, maintenant, il faut voir ce qu'ils se disent en cours de récré.
On parlera des enfants tout à l'heure, effectivement.
De mon temps, on était quand même orduriers, mais un peu moins.
Oui, et pas de la même façon.
En même temps, ils pensent pas ce qu'ils disent.
Et
quoi.
Pas de la même façon. Céline, vous restez avec nous, Hélène Fresnel. J'aurai des questions à vous poser dans un instant. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Mais je ne suis pas toute seule, hein. Évidemment, vous êtes tous les jours avec nous. Et c'est vous d'ailleurs qui écrivez cette émission. Et aujourd'hui, dites donc, ça se lâche, hein, puisque vous nous laissez des messages en direct dans cette émission consacrée au plaisir du juron. Mireille nous écrit, je dis merdasse, gougnafier, carabistouille. On a l'impression que ça fait du bien à tout le monde de se lâcher. En ce moment, on en a tous besoin. Ça fait du bien de jurer, nous écrit Matt. Et surtout quand je suis sur la route, la voiture est mon défouloir verbal. On reviendra sur les environnements et puis les situations. Et puis Tine, avec les copines et les copains, quand on joue au TOC, qui est un jeu de société, on se traite de, alors pardon, hein, j'y vais, hein, mais bon, c'est comme ça, de salope ou d'enculé lors de certains coups qui sont faits, alors qu'autrement, on ne se parle jamais ainsi. C'est trop drôle car on y met vraiment de l'intention. Vous venez de nous expliquer effectivement il y a un instant, Aurore Vincenti, à quel point les mots dans ces cas-là, quand ils sont utilisés de cette sorte-là, sont vidés de leur sens, sont désémantisés.
Oui, désémantisés.
Comme vous nous l'expliquiez en tant que linguiste il y a un instant. Et Kririne sur Twitter. Mes collègues en disent beaucoup, notamment les putains à chaque fin de phrase. Ça me fait hyper mal aux oreilles, mais à force de les entendre depuis des années, j'en ai pris le pli. Hélène Fresnel, vous avez entendu Céline nous expliquer que son environnement, quelque part, avait aboli les murs de la bienséance qu'elle avait érigés autour d'elle et qui l'empêchaient peut-être aussi de franchir le cap du juron systématique. Est-ce que notre environnement a une influence sur notre liberté de jurer ?
Oui, bien sûr. En fait, on baigne dès la naissance dans le langage. Donc, évidemment, ça nous imprègne, ça nous marque. Et l'environnement dans lequel cette jeune femme évolue, elle s'en est imprégnée aussi, et comme ses modes de fonctionnement.
Parce qu'en fait, il y a un langage en ressenti en fonction des univers.
On s'adapte, mais dans tous les cas, réalité, ce qu'on appelle la notion de registre de langue, c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où on est, avec qui on parle, à quel point on est détendu, est-ce qu'on est là au boulot ou est-ce qu'on est là autour d'un verre, on ne va pas parler de la même façon, qu'on soit grossier ou pas d'ailleurs.
On ne parle pas de la même façon en famille, on ne parle pas de la même façon au boulot, enfin on a des environnements linguistiques.
Exactement, on a des environnements et ça c'est tout naturel et ça ne concerne pas uniquement le monde du Juron.
Alors, Céline, vous voudriez bien connaître l'origine, j'imagine, de votre expression, votre Juron favori. On va l'écouter tout de suite. C'est un extrait des gros mots qu'Aurore Vincenti, notre invitée, une série qu'elle a créée pour TV5 Monde. On écoute.
Putain, on se le dit à soi-même comme on se dit merde. Fuck en anglais, scheiße en allemand. Putain désigne littéralement une prostituée. Mais c'est un juron, rien qu'un juron, tant qu'il n'est pas adressé directement à une femme. Si je dis cette putain de bagnole, a priori, c'est sans rapport avec une quelconque histoire de prostitution. En revanche, si je dis ta putain de sœur m'énerve, c'est grossier, et on a toutes les raisons de se demander si je ne suis pas en train de viser la vie sexuelle de ta sœur.
Alors, de ta sœur, de ta mère, de toute la clique et tout.
Mais c'est surtout l'origine.
Non, alors voilà, pardon, je pensais qu'effectivement l'extrait portait sur l'origine. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, Aurore Vincenti?
En fait, quand on remonte l'origine du mot, on voit qu'il a des affinités avec le verbe puer, avec putride, avec tous ces mots
putois,
qui renvoient...
C'est ce que j'ai appris ce matin,
putois,
le putois.
Avec tout ce qui renvoie à une idée d'odeur fétide, de saleté. Et en fait, la sexualité féminine a été longtemps et encore parfois stigmatisée on lui a attribué cette connotation de saleté. En fait, une femme qui a une sexualité, c'est une femme sale, une femme impure. Ça, c'est aussi la religion qui a mis cette connotation-là. Et dans le mot, on a donc toute cette origine-là.
De l'odeur nauséabonde.
D'odeur nauséabonde. Et c'est pas très reluisant. Donc moi, j'invite les auditeurs qui entendent le mot à éviter d'employer celui-là et de le remplacer par un autre.
Alors, voilà. Vous allez nous proposer des alternatives. Et puis, ce que j'ai appris justement dans les gros mots, c'est que je vais encore le redire, mais le mot putain, Céline, c'est en fait la putain, c'était la femme qui puait des péchés, quoi, en fait, de la répétition du péché charnel, quoi.
D'être une femme, la pauvre, d'être une femme et d'avoir
d'être
une sexualité,
femme et d'avoir une sexualité.
Déjà un péché, oui.
Voilà. Donc quelque part, Céline, voilà, vous connaissez maintenant l'origine du mot putain. C'est intéressant. Comment?
Il va falloir me donner des astuces pour le remplacer.
Alors, justement, il y a Barbara qui nous rejoint, donc restez avec nous, on va parler des alternatives. Bonjour Barbara.
Oui, bonjour Flavie.
Ah dites donc, et vous y allez aussi,
Ah oui, à l'occasion, je me dérange, ça ne me dérange pas.
C'est quoi votre juron préféré?
Alors, ce que j'avais dit, c'était putain de bordel de merde.
Alors...
Ah, je suis un peu comme ça.
Vous savez, c'est un peu comme Jean-François Marmion. Je me permets, vous n'en prendrez pas ombrage, mais je me permets de préciser que vous avez 74 ans, Barbara. Et alors, ce que je trouve génial, c'est que vous êtes, moi j'appelle ça le juron à escalier, mais en fait vous êtes dans l'amplification. Vous en rajoutez, Barbara.
Ben voilà, pourquoi pas.
Vous nous faites de la rallonge. Vous pourriez rallonger encore avec 2-3 jurons pour nous faire un très long juron.
Ben oui, bien sûr, putain de salope, de connard, etc.
C'est pas vrai, j'ai l'impression qu'on est dans une cour de récré. Qu'est-ce que ça vous fait, Barbara? Est-ce que ça vous fait comme Céline? Ça vous soulage?
Oh ben écoutez, moi ça me soulage pas réellement parce que je vis seule, donc...
D'accord.
Donc, si jamais j'écris des jurons, ce sera sur Internet ou au téléphone à la limite.
Ah, d'accord, vous les dites, vous?
Ah ben, je les...
Vous les formulez pas simplement pour vous, quoi.
Ah ben, je peux très bien les formuler au téléphone.
D'accord, donc vous les adressez à des gens.
Voilà.
Ah d'accord, ok. Et quand vous le faites par écrit, c'est-à-dire?
Oh ben, par écrit, c'est pour... En fait, c'est pour discuter sur Internet. Et en fait, ma cible favorite, ce sont les membres du gouvernement avec le...
Non, non, non. Alors attention, là on est. Ah non, mais attention, la Barbara, c'est pas la même chose. Là, on parle pas. De... Là, on parle du jour, mais enfin surtout, vous êtes une troll, quoi. Vous êtes une hater sur les réseaux sociaux.
Une trollette.
Vous êtes une trollette, Barbara.
Oh ben non, je parle uniquement à ma famille, à mes amis.
Je pensais que vous adressez au président, dont le juron préféré c'est Carabistouille. Je me suis dit, alors là, vraiment, où on va, quoi. Bah dis donc, on en apprend de belles aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. Barbara, je vous remercie. Je vous embrasse quand même. Céline,
merci
beaucoup, Céline, d'avoir ouvert le bal de nos témoignages aujourd'hui. Et nous, on se retrouve dans un instant. Le temps de se remettre de ses émotions, on va passer par l'information sur RTL. À tout de suite.
RTL, Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
C'est trop mignon comme ces questions peuvent déstabiliser, effectivement. On parle du juron aujourd'hui et ça fait du bien de jurer. Mais pourquoi donc? Eh bien, on en parle avec vous et avec nos invités. Hélène Fresnel, journaliste à Psychologie Magazine, magazine ami et partenaire de cette émission. Aurore Vincenti, qui est linguiste, et Jean-François Marmion, qui est psychologue. Bon, alors, on va pas revenir sur le témoignage. Il y a un instant, nous avons découvert que Barbara était un peu un troll, une trollette sur Internet. C'est-à-dire que le juron, parfois, elle l'adresse aussi à ses interlocuteurs. Ça n'est pas l'objet de cette émission. Il est plein de jurons complètement différents, Hélène Fresnel.
Oui, en fait, ça dépend de chacun. Ça stimule la créativité aussi, le juron. On peut, comme le racontaient les différents témoins, on peut être créatif, on peut faire des vrais chapelets. Donc, c'est.
Est-ce qu'il y a l'art de jurer, Aurore Vincenti? Est-ce qu'on peut l'ériger comme une forme d'art? Parce que certains sont connus pour ça.
Bah, le capitaine Haddock est un artiste du juron. En effet, dans ses accumulations, alors j'aime bien la notion de chapelet de juron, je trouve ça assez rigolo, ou d'escalier de juron. Donc, l'accumulation des jurons qui s'enchaînent, ou alors simplement la répétition du même juron. On peut varier sur le même thème avec des nuances, des figures de style, c'est possible.
Il est plein de jurons différents. Il en est un qui demandait toujours à ses invités, justement, quels étaient leurs jurons préférés. C'est Bernard Pivot sur le plateau de Bouillon de Culture. On l'écoute.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori?
Enfin.
Enfin.
Enfin. Enfin. Dans le midi, on dit ça.
Ma che cazzo?
Ampletirla, personne ne comprend. Che cazzo, ça veut dire quelque?
Putain de Dieu.
Que Dieu me tripote.
Vin Dieu, parce que je ne sais pas comment ça s'écrit.
Volaille de Dieu.
Volaille de merde.
Ouais.
Et bordel à cul, charrette à bras.
Pute borgne.
Caramba.
Ça me coule le cul.
Irrite-moi le clito, mais ça n'existe pas pour les filles. Tous les jurons sont masculins, donc je dis casse-couille.
Que le cul te pèle. Espèce de chameau. Non, parce que le chameau, en Afrique, est un animal noble. C'est le plus grand compliment qu'on puisse faire à un homme, c'est de lui dire camarade, c'est-à-dire chameau.
Oh putain, oh putain, oh putain. Toujours trois fois.
Alors c'est intéressant, on vient d'entendre Jean-Louis Trintignant, Josiane Balasco, Marcello Mastroianni, Pierre Perret, Guy Bedos, Sœur Emmanuel, espèce de chameau, on va
espèce
y revenir.
Espèce de chameau.
Voilà, exactement. Laurent Baffy, encore le réalisateur Bertrand Tavernier, décédé hier à l'âge de 79 ans. Son juron, c'était volaille de merde. Alors on est d'accord. Oui, c'est super.
Oh, oui,
vous
j'adore.
Qui êtes linguiste, Aurore Vincenti. On sent qu'il y a de la créativité, ce que nous disait Hélène Fresnel il y a un instant.
Oui, oui, et on voit que... Il y a beaucoup plus, alors je sais pas de quand elle date toutes ces interviews, mais il y a beaucoup plus de Dieu dans les jurons. On emploie de moins en moins Dieu, j'ai l'impression, en tout cas dans un français courant. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, là, il y a eu une évolution dans une certaine mesure.
Là, on était dans les années 90,
oui.
C'est une sorte de best-of entre 91 et 96 dans Bouillon de Culture. C'est intéressant parce que le chameau est un animal noble. La mère, il y a la noblesse du rôle de la maternité. Dieu, n'en parlons pas. Et c'est bien à eux qu'on s'attaque. Très souvent quand même, Jean-François Marmion.
Autrefois, en tout cas, on s'attaquait beaucoup plus à Dieu dans notre culture. Le juron, à l'origine, c'était ça. Alors ça s'est désacralisé au fil du temps, c'est devenu des mots un peu vides, un peu anodins, qu'on balance presque par coquetterie pour faire rigoler. Mais à l'origine, il ne fallait pas rigoler avec ça du tout. Hein. Et c'était lui, évidemment, les jurons concernent surtout les femmes, etc. Mais enfin, lui, il représentait le masculin. Dieu, c'était un homme. Jusqu'à preuve du contraire, dans les religions, Dieu, c'est un homme. Et c'est lui qu'on avait le droit d'attaquer. Et c'était le plus...
Et puis c'est suprême en plus.
Bah, c'est, voilà, enfin... là c'était hyper transgressif.
Alors, mais alors justement, Dieu, on le retrouve dans quoi? Parce qu'on reviendra aussi, il y a les régions. Le vin Dieu de Bon Dieu. Moi, oui, je l'ai entendu campagne quand j'étais gamine et il m'arrive de temps en temps de le ressortir.
En fait, on ne pouvait pas toujours dire Dieu. C'était tellement sacré comme nom qu'on ne pouvait pas le prononcer.
Donc on
est passé par Dieu, par Bieu et même par Bleu. Le sacre bleu, ouais. Par bleu, c'est le nom de Dieu qu'on invoque. Et en fait, quand on disait sacre bleu, ça signifiait, dans un français plus récent, salaud de Dieu, en réalité. C'est à la fois une invocation, on l'appelle à témoin, on lui dit « mais qu'est-ce que tu me fais ?» Et en même temps, on l'insulte, on lui dit « c'est de ta faute ». Donc, il y avait ce fait de jouer avec la frontière, avec la limite. Est-ce que j'ose ? J'ose, je n'ose qu'à moitié, donc je vais dire « bleu » ou « biou » ou « dieu » pour remplacer « Dieu ».
Et aujourd'hui, ça nous semble plus noble comme façon de parler.
Il y en a un qui était terrible, c'était « j'arnie Dieu » aussi. Mmh. « J'arnie Dieu », c'était « je renie Dieu, Dieu. ». Oui. Là, c'était terrible. À tel point que ça s'est transformé très vite en « j'arnie Coton », par exemple. Mmh. « Je renie Coton ». Alors, Coton, c'était le père Coton qui était le confesseur d'Henri IV, je crois. Hein,
et puis, c'était une façon, oui, d'évacuer le problème, de ne pas le dire. Voilà, c'était pas
Dieu, j'en ai juste Coton, mais pas Dieu.
Mais aujourd'hui, moi, si mon fils arrive dans la cuisine et me dit « oh, j'arnie Coton », ça va me faire beaucoup plus marrer que s'il me sort un de ces jurons qu'on peut entendre à la sortie des lycées. Donc ça s'est désémantisé, comme vous nous le disiez il y a un instant aussi.
Ou alors, en tout cas, disons que maintenant, ils ont une sonorité désuète, alors que putain, on n'est pas désuet du tout, par exemple.
Voilà.
Presque charmant.
Mm-hmm.
Donc, on a perdu le sens initial, en effet, et on en a fait de jolis mots plaisant. Voilà. C'est plutôt du registre du plaisant, de la plaisanterie, que du gros mot ou du juron.
Et c'est une marque de contrôle aussi. Hein. Si je choisis de dire sapristi, on sait que je vais rigoler. Si je dis putain, on se dit, ah non, il est en train de s'énerver pour de bon ou pas. Il y a une ambiguïté qu'il n'y a pas avec un mot désuet que je vais chercher, comme parfois vont chercher les politiques qui aiment bien.
Hein. Alors justement, je parlais d'Emmanuel Macron en rentaine qui nous sort du carabistouille, mais ce n'est pas du tout un juron.
Non, c'est un mot plaisant, carabistouille, qui vient du français de Belgique et qui, c'est des balivernes, c'est des bêtises. Voilà, c'est un mot plutôt joli.
Hein. C'est donc on pas peut ce carabistouiller. Sort de mégon, je badine, quoi.
Oui. Guy nous rejoint sur cette antenne. Bonjour, Guy.
Bonjour.
Bon, bah vous badinez pas, hein.
Non.
C'est un peu scato, hein. C'est un peu scato, c'est marrant, ça, parce que vous dites fait.
Alors, je dis à peu près putain, merde, fait chier.
Alors, fait chier. Moi, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Sur ce côté scato qu'on a très peu évoqué tout à l'heure, mais c'est quand même vachement sympa d'y revenir. Donc, on va en parler dans un instant. À tout de suite.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Vous êtes bien sur RTL.
Qui sortira le 9 avril.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Et j'en profite avant de revenir à nos jurons pour vous dire que le SIDAction est soutenu comme chaque année par RTL. Depuis un an, la crise sanitaire a ébranlé nos vies et la lutte contre le sida n'a pas été épargnée, vous vous en doutez. Alors ne laissons pas le virus du sida regagner du terrain. La lutte contre le sida ne peut pas attendre. Pour faire un don et pour sauver des vies, pour soutenir SIDAction, vous pouvez donner au 110 ou sur www.sidaction.org. Vous pouvez aussi faire un don de 5 euros en envoyant don par SMS au 92 110. On vous en parle régulièrement sur cette antenne. Merci à vous. Des messages qui nous arrivent. Tiens, Sabri nous écrit « Très sympa cette émission chez nous. Les enfants et même les animaux filent droit quand je dis non d'une pipe en bois, sinon crotte de biquette. » On reviendra parce que je voulais qu'on parle scato et sexualité. Donc ça tombe bien, je vais vous demander si ça a un lien. Aurore Vincenti. Guy, alors vous, ça sort tout seul, les jurons?
Ben oui, enfin, c'est... quand vous m'avez appelé ce matin, mais les jurons, c'est une façon de défouler sa frustration par rapport aux petits incidents du quotidien.
Ouais. Alors c'est...
Donc c'est un réflexe.
Et vous le faites toujours en public ou de moins en moins? Parce que on peut, parfois, quand on dit que ça sort tout seul, on ne fait pas forcément attention à notre entourage.
En fait, une fois qu'on a bien recadré, qu'on avait fait au début ce que c'est un juron... Oui, parce que si je me cogne le pied dans la porte, même au bureau, le fait de me faire mal, ça me donnera envie de dire un des trois mots que je vous ai cités. Par contre,
oui.
Par contre, pour tout ce qui est insulte, etc., tout ce qui est conscient, c'est hors de question
en
société, quoi.
Non, on est d'accord. Enfin, vous faites quand même attention.
On le pense dans ce cas-là.
D'accord, ok. Je voudrais qu'on vienne sur les jurons scato. Hélène Fresnel, ça commence dès l'enfance?
Oui, ça commence dès l'enfance. Alors, ça commence en fait avec le stade anal. M'expliquait Dominique Picard. En fait, c'est souvent une... le juron, quand il est scato, c'est souvent une régression au stade anal. Le stade anal, c'est quoi ? C'est l'apprentissage de la propreté entre 18 mois et 3-4 ans à peu près. Quand l'enfant...
Bon, alors on est en train de perdre Hélène Fresnel, on va essayer de rétablir le lien. Aurore Vincenti, pourquoi ça nous fait du bien ?
Pourquoi ça nous fait du bien ?
De parler de pipi, caca, prout et de sexualité.
Bah déjà parce qu'on parle de son corps et que les émotions, elles nous traversent dans le corps et qu'il y a une hiérarchie entre les parties du corps. On va dire que tout ce qui est au-dessus de la table, là, tout ce que vous voyez de moi, Flavie, au-dessus de cette table de radio...
Alors regardez sur RTL.fr, voilà. Tout ce que vous voyez de nous, c'est la partie noble.
Exactement, c'est la partie
mangez-moi, noble. Mangez-moi.
Voilà, là, avec ça, on peut parler, on peut être en société. Tout ce qui est en dessous, à savoir mon bassin, mon sexe, mes jambes, eh bien là, c'est la partie dite basse. Et donc, quand on parle de ce qui se passe en dessous de la ceinture, eh bien, tout de suite, on est à la fois dans la transgression, on est dans les parties moins nobles du corps, et donc, enfin, en tout cas,
oui, j'entends.
Hiérarchiquement, c'est pas ce que je pense,
mais j'entends.
Donc, on va mettre ces parties-là du côté du déchet, et en effet... Qu'est-ce que le caca ? C'est le déchet du corps. C'est ce qu'on évacue et qu'on veut voir disparaître.
D'où le fait chier.
D'où le fait chier, on évacue.
D'où le putain de merde.
Exactement.
D'accord, ok. La sexualité, elle revient aussi dans les jurons.
Oui, beaucoup.
Il y a du nick 1-1, il y a...
Et là, je dirais que c'est à la fois le bas du corps...
Ouais.
Donc pareil que pour la scatologie, mais aussi la dimension sacrée. C'est un aspect de la vie qu'on ne dévoile pas aux autres, qu'on ne montre pas, qui relève de l'obscène si on le montre. Et donc mettre de la sexualité dans ses jurons, c'est toucher du doigt cette partie-là qu'on n'ose pas dire d'habitude et qu'on n'ose pas montrer ou qui se passe dans une alcôve, dans une chambre à coucher.
Alors quand je vous parle de nom d'une pipe en bois et crotte de biquette, bon crotte de biquette, on est effectivement on est dans le scato. Voilà. Nom d'une pipe en bois. Pardonnez-moi, est-ce que c'est normal si j'y vois un aspect sexuel ou pas du tout ?
Alors, c'est normal que vous y voyez un aspect sexuel.
Mais je ne suis pas la seule, rassurez-moi.
Non, parce que la pipe, effet, aujourd'hui, a cette connotation qui est sexuelle. En tout cas sexuelle, ça renvoie à une fellation. Ouais. En revanche, l'origine de l'expression ne renvoyait pas du tout à la fellation. C'était une façon, non d'une pipe, c'était une façon de remplacer Dieu par pipe, tout
d'accord.
Simplement, un objet et une pipe.
C'est incroyable, tous les mots pour remplacer Dieu, quand
oui,
même,
hein,
qu'on a trouvé. Hein. C'est effectivement très créatif. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Alors vous, la transgression, vous aimez bien, parce que c'est vrai qu'on nous a enseigné à ne pas dire des gros mots, et pourtant...
Et mais pourtant... Oui. Mais oui, j'aime bien. Moi, j'aime bien dire putain de bordel de merde.
Ouais, donc les fameux classiques.
Ouais, et l'escalier, justement, voilà, plus j'ai mal, plus j'en rajoute.
Voilà, c'est ça. Et très étrangement, on a l'impression que la douleur s'en va avec les mots.
Mais c'est ça. Je me demande s'il n'y a pas un truc dans le cerveau qui se passe au moment où on sort ce juron qui nous aide à supporter la douleur, j'en sais rien, mais...
Il y a des études qui ont été faites sur les jurons pendant notre sommeil, Jean-François Marmion.
Oui, auprès de gens qui souffrent de ce qu'on appelle le trouble comportemental du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est là où on rêve le plus. On dit que c'est paradoxal parce que le cerveau est en activité comme si on était éveillé, mais le corps est complètement paralysé.
Donc, quel paradoxe ?
Or, il y a des gens chez qui le corps n'est pas paralysé parce qu'ils ont un petit problème au verrou du cerveau en quelque sorte, et donc ils vivent leurs rêves et ils parlent à haute voix ce qu'ils disent normalement à l'intérieur de leur tête, et on peut les observer en laboratoire, et donc on constate que 10% des phrases qui sont prononcées pendant les rêves sont ordurières.
D'accord.
Avec beaucoup de gens, même chez tout le monde, même chez les gens qui ont un haut niveau d'éducation, tout le monde dit putain, fais chier, merde, connard, etc.
Alors, donc c'est un exutoire,
de bras, beaucoup
vraiment.
Beaucoup plus fréquemment
même de façon inconsciente, même quand on dort.
Absolument.
On se retrouve dans un instant, Gaëlle, parce qu'on va parler des enfants. Ok, à tout de suite.
RTL. On est fait pour s'entendre. RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Carabistouille. J'ai dit carabistouille pour ne pas hurler parce qu'effectivement on avait un petit problème de son. Alors Gaëlle, vous êtes en ligne avec nous. Alors vous, le juron, vous devez l'entendre puisque vous vous occupez d'enfants.
Oui, je l'entends. Je l'entends souvent.
Qu'est-ce qu'ils disent les petits ?
Alors les petits, c'est beaucoup de merde.
Ouais.
Ils le disent beaucoup. Et d'ailleurs, une fois, je m'étais cognée et je fais ah merde, chronique.
Ouais.
Et il y a un petit qui me dit « Mais non, nounou, c'est pas ça qu'on dit, on dit merde !»
Donc il le savait mieux que vous.
Exactement.
C'était pas la peine d'essayer de l'avoir. Est-ce que vous, alors on a des c'est marrant parce qu'on a des messages. Jacques qui nous dit les jurons ça défoule. Moi j'aime bien dire des gros mots avec mes petits enfants. C'est une sorte de transgression commune qui rapproche. Moi j'ai fait ça avec mes fils. Gaël, de temps en temps je disais bon vas-y c'est bon, on a 5 minutes maintenant, tu te lâches quoi. Mais qu'est-ce que je riais de voir leurs yeux qui brillaient et puis tout à coup ce sentiment très libérateur. Bon, c'est les vrai. Parents ne nous écoutent pas. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des petites minutes comme ça de jurons avec les enfants?
Alors, avec les petits, pas spécialement, mais par contre, avec mes propres enfants, oui.
Oui.
Et voilà, j'ai souvent un de mes fils qui me dit « Maman, il faut que je te dise un truc, mais il y a un gros mot. Est-ce que j'ai le droit ?»
Ouais.
Et quand je lui dis « Bah oui, vas-y, il y a les yeux qui pétillent. » Allez, vas-y, mon loulou.
Et donc, ça vaut une séance de méditation, quoi?
Ah mais ouais, je trouve ça excellent. Puis c'est vrai que du coup, ça fait rire. Et oui, c'est. Je comprends que ce soit un moment de convivialité, voilà, de rapprochement.
Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça, Jean-François Marmion? Parce que Jacques, le grand-père avec ses petits-enfants, il y a un côté filou, quoi.
Oui, il y a un côté, je me mets à votre niveau, je fais des bêtises comme vous, mais il y a un côté aussi, vous vous mettez à mon niveau d'adulte, on a le droit de parler, de dire des gros mots. En famille, normalement, on essaie de limiter les gros mots, on essaie de montrer l'exemple. Et puis, en grandissant, on s'autorise, et on autorise les enfants à en dire de plus en plus, et là, ils ont l'impression de rentrer un peu dans la cour des grands, quoi.
Oui, il y a un côté rite de passage dans l'emploi du gros mot.
Voilà.
Mais néanmoins, est-ce que interdire, puisque vous êtes linguiste, Aurore Vincenti, interdire le gros mot aux enfants, est-ce que c'est pas la meilleure façon de toute façon de leur donner le goût du gros mot? Alors qu'en en parlant avec eux, en leur expliquant, voilà, ce sont des mots, mais c'est pas forcément les plus nobles, en tout cas de ton vocabulaire, mais vas-y, ils existent et tu ne peux pas...
Je me souviens, enfant, j'étais déjà très portée sur la langue. J'ai une petite sœur et un jour, elle m'a dit « va te faire foutre » et je lui ai dit « est-ce que tu sais exactement ce que tu me dis quand tu me dis « va te faire foutre » ?» Et en fait, ça l'a vachement calmée.
Mais oui, parce que là, c'est l'insulte. Il faudrait qu'on fasse une émission sur les insultes. Mais est-ce que vous pensez effectivement que...
Ça s'explique. Je pense qu'en fait, en expliquant, déjà, on enlève le tabou et donc on ne suscite pas l'appétit de la transgression particulièrement.
C'est ça.
Mais surtout, on est dans une démarche de discussion, de dialogue. Quand on se met à expliquer les mots, tout de suite, on entre dans un autre rapport au langage. Et ça peut être justement ludique, assez festif dans un lien intergénérationnel entre parents et enfants, grands-parents et enfants. Et alors, le grand-père, moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée que, surtout, il n'est pas à la place du parent. Le grand-père, lui, il n'a pas à faire.
Mais c'est son rôle de grand-parent.
Oui, mais il a le droit de donner.
C'est ce que je vous dis. C'est son rôle de grand-père de faire le contraire de ce que font les parents.
Exactement.
C'est ça un bon grand-parent. Bah oui, je suis d'accord avec vous. Laurence qui nous écrit, ma fille qui avait 4 ans m'a demandé un jour pourquoi existe-t-il des mots qu'on n'a pas le droit de dire. Ben voilà un vrai mot d'enfant, une vraie réflexion. Gaëlle, vous ne jurez que lorsque vous êtes en colère ou lorsque vous vous faites mal ou lorsque vous êtes au volant de votre voiture, ou est-ce qu'il vous arrive de jurer de joie?
Jurer de joie, oui. Oh putain, c'est génial.
Ah bah, écoutez, justement, Jean Dujardin qui vient de recevoir son Oscar à Hollywood.
Oh putain, génial, merci. Formidable, voilà. Merci beaucoup, I love you.
Alors ça...
Il a copié sur moi.
Voilà, exactement, il a copié sur vous, évidemment, Gaëlle. Mais ça, le juron de joie, on n'en a pas parlé aujourd'hui parce que ça n'est pas ainsi qu'on le voit au premier abord, mais c'est quand même génial, Jean-François Marmion.
Oui, c'est toujours une émotion qui est très intense et qui menace de nous déborder, mais qu'on contrôle un petit peu en s'autorisant un tout petit peu d'ordure, en sachant que les autres vont comprendre et vont nous le pardonner. Ceci dit, il l'a dit en français.
Ouais.
S'il avait dit fuck sur la scène, je sais, là, ça aurait
si
été un énorme scandale.
Si c'était passé de la même façon. Ouais. En tout cas, je vous remercie, Jean-François Marmion, d'avoir accepté mon invitation. Et je rappelle la psychologie de la connerie en politique aux éditions Sciences Humaines. Aurore Vincenti. Donc, il est des jurons, il est des gros mots, surtout auxquels vous vous intéressez dans votre série pour TV5 Monde. C'est passionnant. Vous allez sur le site de TV5 Monde, vous retrouvez Aurore Vincenti, c'est génial. Et je rappelle également les mots du bitume aux éditions Le Robert. Merci d'avoir accepté mon invitation, Aurore. Hélène Fresnel, je ne sais pas si vous nous entendez parce qu'on vous a un petit peu perdu. Oh, pardon, parce qu'on vous perdait, on vous retrouvait. Merci beaucoup, pardon. Le temps file et puis en plus le réseau n'était pas super, mais en tout cas je rappelle Psychologie Magazine actuellement en kiosque avec un article sur le sujet. Merci beaucoup Hélène Fresnel.
Merci Flavie.
Et Gaëlle, je vous laisse avec les enfants pour votre petit quart d'heure de gros mots. Merci à vous d'avoir témoigné sur cette antenne. Prenez soin de vous.
Merci.
Salut Gaëlle, à bientôt. Merci à vous tous. Rendez-vous demain 9h15 pour votre magazine conso. Nous voilà bien. On vous éclairera sur toutes les issues possibles quand on est en surendettement. Et puis lundi, retour d'En effet pour s'entendre, sujet d'actu et de débat. La désobéissance aux restrictions actuellement, est-ce que c'est de l'égoïsme ou de la survie mentale? Ce sera avec vous dès 14h30 sur RTL. Passez un très bon week-end, je vous embrasse, un lundi.
RTL, on est fait pour s'entendre.